Moi, j'aimais beaucoup mon papa. Je dis que je l'aimais parce qu'aujourd'hui, il est décédé. Mais je me vois encore petite quand j'étais tenue dans ses bras. Si Philippe veut bien mettre les diapos, il faut que ça s'ouvre. Voilà. Voilà mon papa et c'est moi qui suis dans ses bras. Là, j'étais bien. Une fois, je ne sais plus lors de quelle occasion, Noël peut-être, ou quelque chose comme ça, il me tenait dans ses bras et me faisait tourner, danser, et tourner encore. Et j'étais tellement excitée, tellement heureuse, que je riais beaucoup, et du coup, j'en ai fait pipi d'excitation. Mais voilà, cela reste un souvenir heureux avec mon papa. Ma maman, elle, a perdu son papa alors qu'elle avait quelques mois. Du coup, ce sont ses grands-parents qui l'ont élevée pendant quelques années. Et elle aimait beaucoup son grand-père. Un souvenir heureux qu'elle nous racontait encore dans sa vieillesse, c'était lorsqu'il amenait une fois par semaine dans une pâtisserie pour acheter un petit gâteau. Et elle choisissait son petit gâteau. Et ça, c'est resté pour elle un souvenir qui lui donnait encore de l'émotion. Alors pourquoi je vous raconte ça? J'aimerais que vous aussi, vous fermiez les yeux quelques minutes et que vous essayiez de vous replonger dans un souvenir heureux avec votre papa. Si vous n'avez pas connu votre papa, cherchez un souvenir avec quelqu'un qui a été comme un père pour vous, un grand-père, un oncle, un père adoptif, un grand frère, un éducateur. Je vous laisse chercher un peu. Vous l'avez bien là? Rappelez-vous comme vous étiez bien. Et comment cette relation était simple, spontanée, sans calcul. Et comment vous faisiez le plein d'amour. Essayez de retrouver les sentiments qui étaient en vous. C'est bon, tout le monde là? Je vois des sourires. Hein. Gardez ce souvenir avec vous pour tout à l'heure. Vous pouvez rouvrir les yeux. Cette semaine, nous répondons donc à l'appel de l'Alliance évangélique européenne et du Conseil national des Églises évangéliques de France en participant à la semaine universelle de prière comme les autres églises. Le support nous y fournit cette année par l'Alliance évangélique africaine. Et elle a choisi pour thème le Notre Père. Ce choix va nous permettre de méditer pas à pas cette prière que Jésus nous a donnée et nous encourager à la prière tout au long de la semaine. Le Notre Père est la prière commune de tout le christianisme et elle est vraiment caractéristique de celui-ci. Aucune autre religion n'appelle Dieu son Père. Où se trouve cette prière du Notre Père? Il y a deux versions. Une version courte dans l'évangile de Luc, chapitre 11, versets 2 à 4, et une version longue dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6. C'est cette version longue qui est la plus connue, celle que nous avons chantée tout à l'heure, et qui est récitée dans toute la chrétienté. La prière se trouve dans ce grand discours de Jésus connu sous le nom de Sermon sur la montagne. Voilà, j'ai essayé de décrire ce Sermon sur la montagne de cette façon-là, qui occupe trois chapitres entiers, Matthieu 5, 6 et 7. Jésus s'adresse à une foule de disciples, et son enseignement est un enseignement de disciples, où il aborde plusieurs thèmes, comme les béatitudes, la loi, les exigences de Jésus, vous savez ces passages, il vous a été dit, mais moi je vous dis, la prière, le jeûne, l'aumône, la persécution, l'amour des ennemis, les richesses, les inquiétudes, tout ça. Au milieu de tout cet enseignement, Il y a l'enseignement sur la prière. Donc là, sur notre dessin, c'est celui qui est en vert pomme. C'est peut-être une réponse à une question. Dans l'évangile de Luc, les disciples disent « Apprends-nous à prier ». Et il est temps maintenant de lire cette section, Matthieu 6, à partir du verset 5. Alors j'ai choisi une traduction qui va nous sortir de la récitation mécanique de ces versets et nous aider à les entendre différemment. C'est « Parole de vie ». Quand vous priez, ne faites pas comme les hommes faux. Ils aiment prier debout dans les maisons de prière et au coin des rues pour que tout le monde les voie. Je vous le dis, c'est la vérité, ils ont déjà leur récompense. Mais toi, quand tu veux prier, va dans la pièce la plus cachée de la maison. Ferme la porte et prie ton Père qui est là, même dans cet endroit secret. Ton Père voit ce que tu fais en secret et il te récompensera. Quand vous priez, ne parlez pas sans arrêt, comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ils croient que Dieu va les écouter parce qu'ils parlent beaucoup. Ne faites pas comme eux. En effet, votre Père sait ce qu'il vous faut avant que vous le demandiez. Vous devez donc prier de cette façon. Notre Père, qui est dans les cieux, ton nom est saint. Fais que tout le monde le connaisse. Fais venir ton royaume. Fais que ta volonté se réalise sur la terre comme dans le ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain qu'il nous faut. Pardonne-nous le mal que nous avons commis, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont fait du mal. Et ne permets pas que nous soyons tentés, mais libère-nous de l'esprit du mal. Et plusieurs textes anciens rajoutent, « Car pour toujours, tu es le roi, tu es le maître et tu montres ta gloire. » En effet, si vous pardonnez leurs fautes aux autres, votre Père qui est dans les cieux vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas vos fautes non plus. Le Notre Père est structuré en deux parties. La section « Toi » qui invoque Dieu et la section « Nous » qui évoque nos besoins personnels. À juste titre, c'est Calvin qui a été le premier à remarquer l'analogie avec les 10 commandements, et je suis contente que vous les ayez lus ce matin, qui se partagent aussi en 4 commandements envers Dieu et 6 commandements envers les hommes. Cette prière, courte, facile à mémoriser, est un modèle pour nos prières. Ce modèle nous permet de ne rien oublier d'important et de respecter un certain ordre. Aujourd'hui, nous sommes invités à méditer particulièrement sur le bout de verset 9, « Notre Père qui est dans les cieux ». Le reste, vous le verrez dans la semaine. Selon la coutume, le début d'une prière ou d'un chant ou d'une poésie sert de titre à l'ensemble. Et donc ce n'est pas par hasard que Jésus l'a fait démarrer par ce « Notre Père » qui va s'imprimer en nous, avec tout ce que cela évoque. Dieu est notre Père, nous avons le droit de l'appeler comme ça. Imaginez, si la prière avait débuté par les mots « Délivre-nous du mal », ça n'aurait pas du tout fait pareil dans nos esprits. Mais notre Père, cette expression va tout de suite démarquer les chrétiens des autres. La prière est adressée à Dieu sous cette expression « Notre Père qui est dans les cieux » ou « Notre Père céleste ». Savez-vous que l'expression « ton Père, votre Père, votre Père céleste » ou « mon Père » concernant Dieu est utilisée 17 fois sur 15 versets dans ce sermon sur la montagne, 8 fois avant le « Notre Père » et 8 fois après. Quand on répète quelque chose, c'est que l'on veut que ça rentre. Jésus veut que l'idée rentre dans la tête de ses disciples. Alors, on va les parcourir pour que vous les ayez en tête. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Et moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent, prier pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père céleste, etc. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Gardez-vous bien de faire des dons devant les hommes pour qu'ils vous regardent, sinon vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père céleste. Afin que ton don se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Il s'agit de l'aumône. Et toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier, notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Afin de ne pas montrer que tu jeûnes aux hommes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. Regardez les oiseaux du ciel, etc. Votre Père céleste les nourrit, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Tout cela, c'est les richesses, la nourriture, l'argent, tout ça. Alors, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, votre Père céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Et ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Regardez le résultat sur le graphique. Pour chaque verset contenant le mot « Père », j'ai fait une marge d'escalier, hein, en orange. Et tout en haut se trouve le « Notre Père hein, », qui est en jaune. Et puis on descend de la montagne. Il y a autant de marges de chaque côté. Et même le verset qui contient de notre Père en contient son face-à-face. Hein, c'est curieux. Hein. Moi, j'ai découvert ça en préparant ce message. Ça montre à l'évidence que le Notre Père est vraiment, merci Paul, au cœur de ce sermon sur la montagne. C'est l'idée centrale. C'est vers là qu'il va. Et ensuite, il va repartir de là. Ce n'est pas complètement une idée nouvelle pour les disciples. Dans l'Ancien Testament, déjà, Dieu a été comparé à un père. Un père pour Salomon, un père pour les orphelins, un père pour Israël. Mais c'est surtout dans le Nouveau Testament que cette affirmation s'exprime avec force, avec la révélation de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Qu'apprenons-nous sur ce Père céleste, d'après ce que Jésus en dit dans le sermon sur la montagne, ces versets que nous avons lus, c'est qu'il aime autant les justes que les injustes, qu'il est parfait et qu'il est saint, qu'il voit dans le secret, qu'il récompense, qu'il sait de quoi on a besoin, avant même qu'on lui dise, qu'il nourrit, qu'il donne de bonnes choses, qu'il pardonne, qu'il règne en exprimant sa volonté et sa gloire. Notre Père, j'insiste sur notre, Jésus dit notre Père et non pas mon Père, quand il prie lui-même, il dit bien Abba, mon Père, car c'est bien le sien. Mais il nous enseigne à dire notre Père et pas mon Père, quand, comme pour nous rappeler que si nous avons un Père commun, alors nous sommes frères et sœurs, nous faisons partie de la même famille. C'est une famille recomposée. Faites d'enfants adoptés par ce Père et au nom de Jésus-Christ. Une famille bien nombreuse qui ne laisse pas la place à l'égoïsme. Bien sûr, chacun de nous a le droit de dire « papa », mais nous ne pouvons pas ignorer que nous avons des frères et des sœurs. Que signifie « qui est dans les cieux » ? Dans les cieux. La première réponse qui tombe sous le sens et de bien préciser que nous ne parlons pas de notre Père terrestre, biologique, selon la chair. Nous parlons bien de Dieu, de notre Père spirituel, de notre Père céleste. Mais de quels cieux s'agit-il? Le cosmonaute Yuri Gagarin avait déclaré qu'il était allé dans le ciel et qu'il n'avait pas vu Dieu. Le ciel en question n'est pas forcément celui des astronautes, ni des astronomes, ni des météorologistes, bien qu'il y ait un rapport. Il y a surtout un rapport avec la royauté de Dieu. Du temps des rois, plus un roi était puissant, plus son trône était haut, plus il était élevé. Or Dieu, qui est le roi des rois, se doit d'avoir un trône très élevé, qui monte jusqu'au ciel, qui peut voir d'un seul regard toute la création. Le ciel est son trône et la terre son marchepied, dit Ésaïe, et répété par Matthieu et dans les Actes. C'est pour cela que le ciel est le lieu théologique de la résidence de Dieu. Ce trône, qui est élevé aux cieux et même parfois au-dessus des cieux, est un Dieu qui règne. Que ton règne vienne, disons-nous, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous rendez-vous compte? Dans la même phrase, on fait le grand écart entre Dieu si proche et notre Père qui est si loin. Je qualifierais Dieu de super zoomer. Nous, on a besoin d'un microscope pour voir l'infiniment petit, et de lunettes astronomiques géantes embarquées sur des sondes spatiales pour voir l'infiniment grand. Mais Dieu voit tout du ciel jusque dans le secret de nos cœurs. Super zoomer. Notre Père céleste est donc notre Créateur, notre Roi qui domine et règne sur la création, mais aussi un Père aimant, tendre, proche, nourricier, protecteur, qui voit dans le secret, qui récompense, qui nous connaît au plus profond de nous-mêmes. Nos pères terrestres nous donnent parfois une idée de ce que père veut dire. Par exemple, dans Éphésiens. Nous pouvons avoir eu la chance d'avoir eu un père aimant, attentif, gentil, sachant jouer et faire plein de choses utiles et amusantes. Mais ne laissant passer aucun écart, prêt à nous corriger. Un père idéal. Pour moi, le père idéal, plus que mon papa, c'était Charles Ingalls, de la petite maison dans la prairie. Ce père idéal. Hein. Je ne sais pas beaucoup, peut-être, hein, parmi nous. Il se disait, moi, je veux être comme ça quand je serai papa. Malheureusement, certains pères sont violents ou absents ou de très mauvais modèles. D'autres sont partis, décédés, divorcés ou infidèles. Peut-être même ne sont-ils qu'un numéro de la banque de sperme. Si notre père a été décevant, alors nous aurons du mal à nous faire une idée de Dieu le Père qui ne soit pas contaminé par l'image de notre père terrestre. Mais Dieu, qui est le père des orphelins, a sans doute pourvu une autre personne près de nous pour compenser ce père défaillant. Vous qui êtes père, vous avez bien sûr envie de transmettre à vos enfants la meilleure image de père possible, et vous le faites en imitant Dieu le Père, en le prenant comme modèle. Nous ressemblons à nos pères, nous avons un air de famille. Et quand on voit le fils, on voit les parents. Nous véhiculons leur ADN de génération en génération, et parfois nos pères réclament un test de paternité quand la ressemblance n'est pas évidente. Aujourd'hui, on peut dire avec quasi certitude si la paternité est établie ou non. Mais quel est le test de paternité de Dieu? Comment savoir si vous êtes enfant de Dieu? Alors, toujours dans le sermon sur la montagne, hein, les phrases avec ton père. Qu'est-ce que nous en tirons? Les vrais enfants de Dieu font briller leur lumière afin que la gloire revienne à leur Père qui est dans le ciel. Ils sont appelés fils de Dieu. Les vrais fils du Père aiment leurs ennemis. C'est ceux-là aussi qui sont appelés fils de Dieu. Aimez vos ennemis. Ben, je pense, j'ai pas osé vous l'afficher. Mais je pensais à cette une de Charlie Hebdo qui, où on voit deux ennemis qui s'embrassent sur la bouche avec l'amour est plus fort que la haine. Voilà un témoignage de. Mais bon, je ne vous l'afficherai pas. Les vrais enfants de Dieu cherchent la perfection. Soyez parfaits comme votre Père est parfait. On ne dit pas qu'on y arrive toujours. Les vrais enfants de Dieu ne font pas ce qui est bien seulement pour être vu par les hommes. Les vrais enfants de Dieu pardonnent. Les vrais enfants de Dieu ne s'inquiètent pas pour leur avenir, pour leur subsistance. Ils font confiance à leur Père. Les vrais fils de Dieu font la volonté du Père céleste et lui obéissent. Puisque tous ne sont pas vraiment fils de Dieu, quelle est la différence? Nous sommes enfants de Dieu, non pas par la chair, mais parce que nous sommes nés de l'Esprit de Dieu qu'il a mis en nous. C'est ce que dit le verset en Romains 8, 14 à 17, qui va s'afficher, que vous avez aussi dans le livret, sur la page d'aujourd'hui. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous amène à la crainte. Non, vous avez reçu l'esprit qui fait de vous des fils adoptifs de Dieu. Car c'est par cet esprit que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». L'Esprit Saint lui-même et notre esprit nous témoignent ensemble que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, et donc co-héritiers du Christ, puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. Alors quel est le but du Notre Père? Jésus souhaite nous aider à avoir de bonnes dispositions lorsque nous venons dans la prière. Notre Père nous rappelle de nous mettre dans la bonne attitude avant de commencer à faire notre liste de courses pour la semaine qui vient, là. D'abord, nous devons avoir la bonne attitude, notre Père. Rappelez-vous de ce sentiment heureux que nous avons retrouvé tout à l'heure. Je vous ai demandé d'essayer de garder en mémoire ce sentiment. Je suis un enfant qui vient vers son Père confiant, avec joie, avec spontanéité. C'est simple comme bonjour. Ou alors j'ai fait des bêtises et j'arrive penaude et honteuse pour me faire pardonner avec l'espoir que moyennant un bon savon, je serai quand même pardonnée et que je retrouverai toute ma joie. C'est cette attitude-là que Dieu recherche en nous dans nos moments de prière. Je peux exprimer des frustrations, des mécontentements, des peines. Ça fait partie de la vie. Et notre Père peut entendre et nous consoler. Mais chaque fois que je viens prier avec arrogance, suffisance, la rencontre ne se fait pas, le courant ne passe plus. Je peux ne pas venir au rendez-vous, laisser s'installer de la distance avec mon Père céleste, comme un enfant qui s'éloigne. Le Père va souffrir et continuer de m'aimer et m'appeler à revenir, comme le Père du Fils prodigue. Tant que je continue à voir Dieu comme Père, tout espoir est permis. Je le sais, moi, parce que je l'ai vécu. Je peux répéter le Notre Père mécaniquement, sans faire attention à ce que je dis. Ça vous arrive à vous aussi? Et qu'est-ce que Dieu répond? Il me répond, par exemple, « Bon, ça va, t'es fatigué, va te coucher. » Et si tu me disais plus tôt ce qui ne va pas chez toi aujourd'hui? Voilà ce que nous dit Dieu le Père. Il veut un rapport simple, vrai. L'année dernière, j'avais trouvé dans mes lectures une image intéressante développée par un père grec de l'Église primitive. Mais malheureusement, je vous la raconte de mémoire parce que je n'ai pas retrouvé le passage. Lorsque vous priez, vous pouvez être comme les sujets de l'empereur dans la foule qu'il voit passer. hein, ou comme ceux qui seront à la manif cet après-midi, qui verront passer tous ces présidents qui vont faire le déplacement, et ils seront dans la foule et ils vont l'acclamer de toute leur voix. Vous pouvez aussi être comme ces ministres qui le suivent, avec respect et obéissance, et s'adressent à lui de façon protocolaire. Vous pouvez enfin venir directement lui parler en privé et sans rendez-vous, simplement parce que vous êtes son enfant, comme les enfants de la famille royale. Comment tu te situes, toi ? Dans la foule ? Dans le corps des serviteurs ? Ou parmi les enfants ? De la manière dont tu te vois, va découler ta prière. As-tu reçu l'Esprit de Dieu ? Si oui, l'Esprit va te donner l'assurance d'être enfant de Dieu. C'est ce qu'on a lu là. Prie le Père comme son enfant. Et sinon, tu n'es pas sûr d'être vraiment son enfant ? Alors, demande-lui de te donner son esprit. Il le fera, car nous, dit Luc, si donc tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ? Vous avez le droit de le demander 100 fois dans votre vie si vous n'êtes vraiment pas sûr. Pas grave ça. Je vous propose maintenant de prendre un petit moment de prière silencieux vers votre papa. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite avec notre Père Céleste. Amen.